Ok, on continue notre série sur le survol des 66 livres de la Bible. Nous sommes rendus au livre de Joël. Alors, comme on le fait à chacun des livres, dans la première partie, on étudie toujours l'arrière-plan du livre, son but principal, le plan, et les thèmes majeurs, les personnages clés, les versets clés, les leçons pour le peuple de Dieu d'alors et d'aujourd'hui, et également la place et la présence de Jésus-Christ. Alors, l'arrière-plan. Alors, l'auteur se désigne comme Joël, fils de Pétuel. En dehors de cet indice, nous ignorons tout de l'auteur de ce petit livre. Le nom de Joël signifie « L'Éternel est Dieu ». Et Pétuel, lui, signifie « Cordialité » ou « Sincérité de Dieu ». Dans l'Ancien Testament, 12 autres hommes portent le nom de Joël. Cependant, il n'existe pas de lien satisfaisant entre eux et Joël, le prophète et auteur de ce livre. Les mentions fréquentes de Sion et de la maison de l'Éternel pourraient indiquer que Joël vivait près de Jérusalem ou dans la ville même. Mais nous n'en avons aucune certitude. On ne peut pas non plus accorder de crédit à l'idée qu'il était sacrificateur autant que prophète, sous prétexte qu'il mentionne le sacerdoce au verset 13 du chapitre 1 et au verset 17 du chapitre 2. En revanche, une chose est certaine, Joël est un prédicateur clair, concis et intransigeant de la repentance. La date de composition maintenant, comme le livre ne fournit aucune référence explicite à l'époque, le livre ne peut être daté avec certitude. On lui a traditionnellement attribué la date de 835 avant Jésus-Christ, lorsque le roi Joas fut placé sur le trône à l'âge de 7 ans. On a cette mention-là dans 2 Rois, chapitre 11, verset 21. Et que ce roi-là subit la bonne influence du souverain sacrificateur Jéhojada. Maintenant, la période historique et le cadre du livre. Contrairement à Ésaïe, Osée et Amos et d'autres, Joël ne situe pas sa prophétie dans une période précise de l'histoire de Juda. Les opinions divergent à ce propos, mais le contenu semble le plus correspondre aux premières années du règne de Joas. À cette époque, les ennemis de Juda étaient les Phéniciens, Tyre et Sidon, les Philistins, les Égyptiens et les Édomites. Le livre ne fait aucune mention de la Syrie ou de Babylone, ce qui pourrait indiquer que Joël prophétise avant le milieu des années 700 avant Jésus-Christ. L'auteur ne parle pas de roi, mais plutôt d'anciens et de sacrificateurs. Le livre aurait donc pu être écrit au début du règne de Joas, car celui-ci accéda au trône à l'âge de 7 ans et subit la bonne influence du souverain sacrificateur Jéhojada, un homme pieux, dont la femme avait arraché le futur roi, alors âgé d'un an, des griffes de la méchante reine Athalie pour le cacher et s'en occuper. Joël aurait donc exercé son ministère prophétique dans le royaume de Juda, aux alentours de 820 avant Jésus-Christ, après le prophète Abdias. Leurs deux ministères auraient pu se chevaucher. À cette même époque, le prophète Élisée accomplissait son long ministère dans le royaume des 10 tribus du Nord. Amos, qui exerce son ministère une cinquantaine d'années plus tard, connaît la prophétie de Joël et s'en inspire quand il prophétise contre le royaume des 10 tribus du Nord. Calvin est d'avis qu'il vaut mieux de ne pas se prononcer de façon catégorique sur l'époque durant laquelle Joël prophétise, puisque cela n'a pas une grande importance. Le soin que le Saint-Esprit a pris d'indiquer les dates d'autres livres prophétiques semble confirmer ce point de vue. La datation de Joël n'ajoute rien à sa compréhension ou à son interprétation. Alors, contrairement à d'autres livres, il y a des livres que comprendre dans quelle période tu trouves, c'est très important pour comprendre. Dans celui-là, c'est moins. Alors, j'ai mis un tableau dans lequel vous avez les noms des rois, des tribus du Nord et du Sud, et il faut savoir un peu et quel prophète était dans ce temps, dans cette époque, qui vivait à cette époque-là. Le but du livre de Joël. Dans le double fléau qui s'est abattu sur la Judée, qui était une invasion de sauterelles et une sécheresse, Joël voit une manifestation de la colère de Dieu et un avertissement à son peuple. Il se sert des événements contemporains pour appeler le peuple à la repentance et au retour à l'Éternel. Peu à peu, sa vision déborde les événements de son temps pour embrasser l'avenir lointain d'Israël et celui des nations. Il annonce l'effusion de l'Esprit et la résurrection finale du peuple de Dieu. R. A. Stewart dit du livre de Joël, « L'un des livres les plus brefs de l'Ancien Testament, mais l'un de ceux qui nous dérange le plus et nous oblige à examiner nos cœurs. » On trouve ça sous l'article de Joël dans le Nouveau Dictionnaire biblique. Je vous ai mis, comme d'habitude, un plan du livre. Donc, il y en a deux. Il y a le plan qu'on dit succinct et aussi un plan détaillé. Le plan succinct, ça vous donne les grandes périodes, les grandes idées. Donc, on voit que le livre est divisé comme en deux. Le jour de l'Éternel rétrospective, c'est-à-dire regarder en arrière. Le jour de l'Éternel prospective, regarder en avant. Alors, c'est intéressant de voir la division. Qu'est-ce que l'auteur cherchait à nous donner comme information? Et la deuxième, c'est le plan détaillé. Alors, on prend le plan, pas verset par verset, mais petit passage par petit passage, où on vient nous expliquer les principales idées qui sont dans le livre de Joël. Alors, la pensée clé du livre de Joël, c'est vraiment le jour de l'Éternel. Alors, les thèmes majeurs dans le livre de Joël. Alors, il y a celui de la nécessité de se repentir et de se tourner vers le Seigneur pour éviter le jugement. Un autre thème, c'est celui que Dieu jugera les nations au jour de l'Éternel. Et un autre, c'est celui que Dieu amènera le salut à son peuple et déversera son Saint-Esprit. Les personnages clés, bien entendu, le prophète Joël lui-même, le peuple de Juda et les nations du monde, si on peut appeler ça des personnages clés. Quelques versets clés. Joël 1,15. Ah, quel jour! Car le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. Joël 2, versets 1 et 2. Sonnez de la trompette en Sion. Faites-la retentir sur ma montagne sainte. Que tous les habitants du pays tremblent. Car le jour de l'Éternel vient. Car il est proche, jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuées et de brouillard. Il vient comme l'aurore se répand sur les montagnes. Voici un peuple nombreux et puissant, tel qu'il n'y en a jamais eu et qu'il n'y en aura jamais dans la suite des âges. Joël 2, encore, versets 11 et 12. L'Éternel fait entendre sa voix devant son armée, car son camp est immense et l'exécuteur de sa parole est puissant. car le jour de l'Éternel est grand. Il est terrible. Qui pourra le soutenir? Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Joël 2:31. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Alors, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem. Comment dit l'Éternel et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Joël 3:14. C'est une multitude dans la vallée du jugement, car le jour de l'Éternel est proche dans la vallée du jugement. Septième point, on va regarder les leçons pour le peuple de Dieu. En des périodes de grands troubles, lorsque le peuple de Dieu est menacé et entouré par ses ennemis, Dieu promet d'amener le salut à son peuple et de le fortifier par son Saint-Esprit. Dieu a versé son Saint-Esprit sur chaque croyant, nous permettant d'être admis dans sa famille et nous rendant capables d'être une nation sainte et une sacrificature royale, comme on peut le lire dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Autre point, la place et la présence de Jésus-Christ. Les prophéties de Joël culmine dans l'annonce de l'effusion du Saint-Esprit sur toute chair. Joël précise clairement l'étendue de cette bénédiction et sa nature essentiellement spirituelle, mais sa prophétie ne se concentre pas sur l'œuvre du salut accompli par un médiateur humain. On ne trouve dans les pages de ce livre aucune prophétie directe et particulière concernant le Messie. Le lien entre l'effusion de l'Esprit et l'œuvre de médiation accomplie par Christ ne pouvait s'envisager avant que sa pleine gloire soit révélée au Calvaire et à la Pentecôte. Donc, le jugement de l'Église. La menace du jugement indique clairement que Dieu ne passera pas sur le péché au milieu de son propre peuple. Jésus annonce une vérité fondamentale en disant « En quelque lieu, que soit le cadavre, là s'assembleront les vautours. » Matthieu 24, verset 28. Selon ce principe, le Seigneur châtiera son Église lorsque la corruption se manifeste en elle. L'apôtre Pierre écrit dans 1 Pierre, chapitre 4, verset 17, c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de Dieu? Le sage du livre des Proverbes et l'auteur de la lettre aux Hébreux rappellent aux chrétiens que Dieu corrige ceux qu'il aime. Dans Proverbes 3, versets 11 et 12, et dans Hébreux 12, versets 5 et 6. Même si cette expérience s'accompagne de résultats bénéfiques, elle n'est quand même pas agréable. On a aussi les bienfaits de la Nouvelle Alliance. Joël annonce un temps où le Seigneur va répandre son esprit sur toute chair. Le Nouveau Testament relate l'accomplissement de cette promesse glorieuse. Au jour de la Pentecôte, qui suivit la mort, la résurrection et l'ascension du Seigneur Jésus, des phénomènes étranges se produisèrent à Jérusalem, dans Acte 2. Il y eut un bruit comme celui d'un vent impétueux, Puis des Galiléens se mirent à parler en différentes langues qu'ils n'avaient jamais apprises. Quand des gens, au milieu de la foule immense qui s'était rassemblée, se moquèrent des prédicateurs en les accusant d'être sous l'emprise de boissons fortes, l'apôtre Pierre saisit l'occasion pour proclamer la bonne nouvelle dans Actes 2, versets 14 à 18. « Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la troisième heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servants, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. » Nous n'avons donc aucun doute quant à l'accomplissement de la prophétie de Joël. Le Seigneur l'a clairement fait savoir. Il faut cependant quelque chose d'autre pour préciser la portée de l'expression « sur toute chair ». La prophétie de Joël aurait pu s'interpréter comme un bienfait accordé à Judas seulement. C'est pourquoi le Seigneur s'apprête à montrer qu'il a l'intention de répandre son esprit sur quiconque croit, homme, femme et enfant, où qu'il soit dans le monde. Quelques semaines après cette Pentecôte mémorable, Dieu envoya Pierre dans la maison d'un centenier romain du nom de Corneille. L'apôtre exposa l'Évangile à sa famille et à ses amis rassemblés pour l'écouter. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Actes 10, versets 44 et 40 à 46. Les païens qui croient sont aussi inclus dans l'accomplissement de la prophétie de Joël. L'effusion du Saint-Esprit en ces jours-là s'accompagna de l'exercice très répandu du don de prophétie. Cela ne signifie pas que chaque croyant se mit à prophétiser. Cela n'a jamais été le cas. Mais à l'époque du Nouveau Testament seulement, sous l'Ancienne Alliance, l'Esprit de Dieu était principalement connu comme l'Esprit qui revêt de puissance et permet de prophétiser. Si tous les vrais croyants étaient nés de l'Esprit, s'étaient repentus de leurs péchés et avaient cru dans les promesses de Dieu, seuls quelques-uns, principalement les prophètes et quelques rois et sacrificateurs, furent remplis de l'Esprit de Dieu. Du temps de l'Exode, 70 anciens du peuple avaient été désignés pour assister Moïse dans ses responsabilités. Ils avaient l'Esprit. Dans Nombre 11, 25, nous lisons « L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse, et il prit de l'Esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Et dès que l'Esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent, mais ils ne continuèrent pas. Deux des hommes choisis ne se trouvaient pas avec leurs collègues quand l'Esprit vint sur eux. Ces deux hommes, Eldad et Médad, reçurent aussi l'Esprit alors qu'ils étaient au milieu du camp. Josué conseilla Moïse de leur interdire de prophétiser, ce à quoi Moïse répondit: « Es-tu jaloux pour moi? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes, et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux. » Nombre 11, verset 29. Le vœu de Moïse était en même temps une prophétie. L'exclamation devint une affirmation dans la bouche de Joël. dans le verset 28 du chapitre 2. « Je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. » La prophétie de Joël ne pouvait s'accomplir dans son intégralité qu'avec la venue du Messie. Il fallait en effet d'abord que le Sauveur promis vienne dans le monde, qu'il souffre, meure, ressuscite d'entre les morts et monte à la droite du Père dans les lieux célestes. L'envoi de l'Esprit dépendait de l'achèvement de l'œuvre de Christ sur la terre dans les jours de sa chair. C'est ce qu'indique l'apôtre Jean au chapitre 7 de l'Évangile de Jean, versets 37 à 39. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore donné, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Le don du Saint-Esprit n'est plus limité à quelques hommes choisis, prophètes, rois, sacrificateurs et juges, mais il s'étend à toute chair, sans distinction de sexe, d'âge ou de condition sociale. L'apôtre avait peut-être cette prophétie à l'esprit quand il déclara « Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes un en Jésus-Christ. » Galates chapitre 3, verset 28. Une prophétie qu'il associe à la bénédiction promise à Abraham. « Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » On peut le lire dans Genèse chapitre 12, verset 3. C'est pourquoi l'apôtre ajoute, « Si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. » Galates chapitre 3, verset 29. Trois applications. La première, « L'Éternel est miséricordieux. » Et il avertit toujours solennellement son peuple de se repentir et de retourner vers lui. Implorons-le de nous sonder pour voir si nous marchons convenablement, qu'il nous donne de travailler à notre sanctification avec crainte et tremblement. Deuxième application, c'est parfois avec une grande tristesse que nous voyons les peuples de la terre s'enliser dans des péchés de plus en plus abjects. Ne soyons donc pas dans la crainte, le Seigneur est parfaitement au contrôle. Tous les pécheurs seront amenés en jugement. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Troisième et dernière application, la prophétie de Joël concernant l'effusion du Saint-Esprit est une bénédiction ineffable. Remercions le Seigneur de ce don glorieux. Vivons en étant à la hauteur d'un tel honneur. Que l'Éternel soit béni, loué et adoré éternellement. Amen.